Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Les vallées pyrénéennes sont des lieux de passage, des refuges. Par leur géographie et leur météo, elles sont restées longtemps enclavées. Pour leurs habitants, cela oblige depuis toujours à des solidarités plus ou moins élargies, mais peut créer aussi des animosités tenaces, parfois jusqu'à l'hostilité. Dans ces vallées, le vent de l'histoire a soufflé, et faisant passer des réprouvés, des persécutés, et cette mémoire-là est encore présente. Mais c'est dans cette vallée, une de ces vallées, que Jean-Pierre Noté campe l'action de ses personnages. Et si son personnage principal s'était retiré de l'agitation du monde, il devra faire face à des événements troublants, rencontrer des voisins hauts en couleur qui cachent bien des secrets. Vous l'aurez compris, nous sommes ensemble pour parler d'un roman policier où le mystère se noue sur des estives escarpées ou au bord de rivières qu'on pêche à la mouche. Un récit sous tension, un bon bol d'air que ce livre intitulé « H2 ours » de Jean-Pierre Noté, paru chez Empreinte Éditions. Bonjour Jean-Pierre Noté, merci de votre visite au micro de Parole d'auteur. Alors vous étiez venu la dernière fois pour parler d'un roman d'anticipation, Tantième, qui parlait d'une société de surveillance et d'une humanité en voie d'asservissement par les technologies. C'était en 2022. Alors peut-être vous nous direz si la réalité a dépassé la fiction, avec, vous parliez de privatisation des langues, de transhumanité augmentée. Bon, je crois que la réalité parfois vous a donné raison. Mais aujourd'hui, c'est pour votre quatrième roman, si j'ai bien compté, que vous venez. Et pour commencer, avant de rentrer de plein pied dans ce roman, j'aimerais que vous vous présentiez aux auditeurs et aux auditrices, que vous parliez de l'homme que vous êtes, mais surtout de cette vocation d'auteur.
Alors, l'homme que je suis, tout d'abord, je suis pêcheur à la mouche. Ma fille, ma grande fille, quand elle était petite, répondait quand on lui demandait « qu'est-ce qu'il fait ton papa ?» Il est pêcheur. Donc je pêche dans les Pyrénées, où j'ai une maison, dans une vallée perdue, qui ressemble beaucoup à celle qui est décrite dans le livre. Et je suis je travaille dans l'industrie spatiale, ce qui n'est pas une originalité particulière à Toulouse. Ce qui m'a donné l'occasion de connaître le monde et de nombreux pays que parfois j'aborde dans mes romans. En particulier dans H2 ours, je parle effectivement du Qatar, hein, on aura peut-être l'occasion
on y reviendra,
d'en discuter.
Ouais. La vie d'écrivain, comment ça vient? Manie d'écriture, marotte d'écriture, mais enfin... pour aller donner ce qu'on a écrit à un tiers, et puis ensuite l'aventure de l'édition. Comment ça a commencé? Est-ce que vous aimiez raconter des histoires? Est-ce qu'on vous en a raconté?
Alors, ça vient peut-être de mon métier, parce que pendant des années, j'ai écrit pour les autres. Je travaillais dans l'international. J'ai négocié beaucoup de contrats où, finalement, le but était de savoir ce que les uns et les autres... voulait raconter comme histoire. Alors évidemment, j'écrivais en anglais, mais c'était pas pareil. Mais n'empêche, quand vous prenez un contrat international sur des grands équipements, des systèmes de satellites, etc., il faut rapprocher les points de vue et il faut surtout comprendre les points de vue avant de coucher quelque chose sur le papier, c'est-à-dire, en fait, essayer de faire accoucher les gens de ce qu'ils ont dans leur tête. Hein. Et après, on essaie éventuellement de rapprocher les points de vue une fois qu'on a compris ces points de vue. Et donc, j'avais l'habitude, quand je me présentais dans mon travail, de dire « moi, je suis écrivain public ». Et je pense que ça a beaucoup compté dans le fait que j'écrive. C'est-à-dire, je pense avoir quelques capacités, non pas d'écrivain, mais en tout cas de conteur d'histoire.
Ouais, on va le voir. Alors, pour passer de Tantième, vous avez dû quitter Alice Regensberg pour rencontrer vos personnages du roman... on va présenter à H2 ours. Comment se déclenche l'envie d'écrire un livre, de passer de l'un à l'autre? On dira aussi qu'il y a une certaine continuité par rapport aux Pyrénées, mais ça, ce sera plus tard. Mais comment ça se passe de passer de l'un à l'autre? Est-ce que vous les avez écrits successivement?
Je les ai écrits successivement, mais quand j'écris un roman... au bout d'un moment, j'ai envie de tuer tous mes personnages parce que j'en ai assez, une fatigue. et donc, Je pense déjà à la fin du roman précédent, au roman futur. J'ai besoin de m'évader de mes personnages au bout d'un moment. Alors, j'écris lentement. Ça me prend beaucoup de temps d'écrire un roman. Ça me prend un an et demi, voire 2 ans. Et quand j'arrive vers la fin, j'ai vraiment, je le répète, envie d'en finir avec mes précédents personnages et de repartir sur une nouvelle histoire assez différente, bien que, comme vous le soulignez, il y a pas mal de traits communs.
Bon, enfin, pour la promotion d'Âge de Ours, on va quand même revenir sur ces personnages et donner envie à nos auditeurs de faire sa connaissance. Est-ce que vous pourriez nous parler du narrateur, Vincent Goldberg, pardon, qui est-il ? Parce qu'on le rencontre à un moment de sa vie qui n'est pas simple.
Alors, Vincent Goldberg, il m'a été inspiré par un personnage que je connais bien, moi, en l'occurrence. Donc, il a beaucoup travaillé dans plusieurs pays du monde, les pays du Golfe en particulier. Et c'est un homme qui, arrivé à la quarantaine, se rend compte peut-être de la vacuité de son métier. Et donc, il se dit, je vais tout plaquer et je vais aller m'enfoncer dans une vallée pyrénéenne. Alors, je reviens sur ce mot vacuité. En fait, il vend des systèmes d'observation par satellite, etc., et qui servent souvent à diriger des missiles, enfin, qui ont des aspects militaires certains. Et donc, il se dit, mais tout ça sert à quoi ? Pourquoi est-ce que je participe comme ça à la folie des hommes ? Ça ne va pas du tout. Je vous assure, j'ai commencé à écrire ce livre avant la guerre en Ukraine. Donc, ce Vincent Goldberg se dit, moi, ce que j'aime, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus participer à tout ça. Même si je sais que si je n'y participe pas moi-même, d'autres prendront ma place. Et je veux ignorer ce monde-là et je vais me réfugier dans les Pyrénées.
Mais pourtant, il gagne bien sa vie. Il emmène sa compagne ou sa femme à Zermatt au pied du...
Du Mont-Rose.
Oui, voilà. voilà. Alors, mais c'est aussi dans cette rupture, dans sa vie, il y a aussi quand même quelque chose de sentimental parce que c'est un homme blessé.
Oui, alors il y a
dont
aussi
une femme lui a dit « Tu es un surdoué de l'Excel, mais un tocard dans la vie. » C'est quand même...
C'est un peu dur.
C'est dur.
C'est un peu dur, mais c'est effectivement un surdoué d'Excel. Mais son métier passe avant toute chose. Il est souvent absent. Sa compagne lui reproche, et peut-être à juste titre d'ailleurs. Et donc, il connaît une rupture amoureuse. Hein. Sa compagne s'en va. Voilà, elle reconnaît que c'est un surdoué, mais les surdoués, c'est pas simple à vivre, donc elle décide de partir. Et lui, ça déclenche quelque chose, c'est lui qui fait que le surdoué d'Excel va essayer de changer de vie.
Alors, il va devenir... alors, oui, parce qu'il veut être isolé, c'est un peu, il est dans sa thébaïde, il va se construire un lieu de refuge, de retraite, qui va appeler la ILO, I de Zello.
La ILO.
La ILO. D'ailleurs, pourquoi la ILO ?
Pourquoi la ILO ? Alors, pourquoi la ILO ? Parce que, alors, la ILO, en gascon, ça veut dire l'île, et donc c'est une grange qu'il restaure, qui est au bord de la rivière, forcément, puisque c'est un pêcheur.
Eh oui, c'est un pêcheur... À la mouche.
C'est un pêcheur à la mouche.
Tiens donc. Alors moi, je n'ai jamais pêché à la mouche, pour tout dire. J'ai vu le film « Et au milieu coule une rivière » avec Robert Redford. Et donc, on sait bien que vous êtes un pratiquant. Et il y a en effet quelques belles pages dans « Âge de ours » sur la pêche à la mouche. Et j'aimerais vous poser la question, mais qu'est-ce qu'un CDC ?
Un CDC, cul de canard.
Voilà, c'est ça.
Alors, en quelques mots... quand j'étais jeune, je faisais mes mouches, mais je dois reconnaître que mon travail m'a beaucoup pris, comme Vincent Goldberg, et que pendant 40 ans, je n'ai plus fait de mouches. Mais en quelques mots, les poils de canard sont très efficaces, car ils sont creux, et donc ils flottent. Donc si vous faisiez une mouche, par exemple, avec de la laine de mouton, ça ne marcherait pas du tout, parce que la laine n'est pas creuse, fil de laine, et donc la mouche coulerait. Et donc le principe de la pêche à mouche sèche, c'est de faire flotter sa mouche et que la truite vienne la gober quand vous la posez.
Alors Vincent, il a son modèle, le O16, qui au fil du temps est devenu la star de sa boîte à mouches, ma véritable signature de guide de pêche. Alors je vous cite, hein, « Elle n'a ni la courbure aristocratique de la mouche de mai, ni le carénage tape à l'œil de la frigane, ni le velu populaire d'une mouche noire. Elle est à sa façon, discrètement, un peu tout cela à la fois. Elle est aux milliards d'insectes qui rampent, sautent, nagent ou volettent dans la vallée, ce que le français moyen est à la France. Elle passe incognito. » Mais toutes les truites du coin croient reconnaître leur pitance habituelle et tombent dans le panneau.
Je suis assez d'accord avec
voilà.
ça.
Voilà. Donc, mais alors, il est pêcheur à la truite, certes, il se veut un peu anachorète, mais il faut quand même vivre. Et donc, en tant que guide de pêche, ben, il y a des.
Voilà,
des
donc désormais, il guide des gens qui ressemble assez à ce que lui faisait dans sa vie précédente. Mmh. Alors je dois dire, je rajouterai que Vincent, c'est un naïf, parce qu'il est dans les montagnes, et donc ça lui permet de ne plus voir le monde tourner tel qu'il le connaissait. Et donc le fait de ne pas le voir, il peut éventuellement penser qu'il n'existe plus, mais le monde continue de tourner et de mal tourner, même si lui... Ah oui. se trouve dans sa vallée pyrénéenne.
Alors seul, mais pas si seul, c'est-à-dire que l'homme reste un animal social, il va rencontrer son voisin, Dan le Danois, mm-hmm. sa fille, Clara, qui est une universitaire professeure d'anthropologie à l'école du Louvre. D'ailleurs, j'ai bien aimé le titre de sa thèse, Le néo-rural du phénomène de mode au phénomène social, histoire anthropologique du Couserans depuis 68. Donc elle est pétillante, elle va l'apprivoiser.
Difficilement.
Et puis il y a une chienne donnée par un voisin.
Tout à fait.
Gigi. Mm-hmm. Un peu comme le Milou et l'idée fixe.
Oui, c'est un peu ça. Sauf que c'est une chienne de berger qui connaît la montagne et qui va très rapidement se mettre au diapason de son maître Vincent et qui va adorer la pêche elle-même.
Eh oui. Alors pour le... Et puis évidemment, il va rencontrer les locaux, Titine, le Regatou.
Et pour le Regatchou.
Ah, désolé. Le Regatchou, excusez-moi. Pour certains de la vallée, il est l'étranger, le fada, l'écolo, le pro-ours, l'anti-chasse. Mm-hmm. Donc on projette dans les vallées.
Oui, ben voilà, donc...
Et c'est ce qui fait...
J'ai une certaine pratique.
Une certaine tension.
Tout à fait. Alors, j'ai une certaine pratique des vallées ariégeoises, une pratique de plusieurs décennies. Et il est vrai que si vous n'êtes pas là depuis 7 générations au moins, c'est parfois un peu difficile de s'intégrer à la vie de la vallée et que vous êtes souvent celui qui vient d'ailleurs. Voilà. Mmh.
Et donc, si vous venez d'ailleurs, on projette sur vous. Et dès qu'il se passe un événement, je dirais, dramatique, eh bien, vous pouvez être...
Vous pouvez être rapidement suspecté.
Suspecté.
Ouais,
et alors, que se passe-t-il dans cette vallée?
Alors, il est en train de pêcher, un pêcheur à la mouche anglais, fortuné, qui vient là rapidement pour prendre quelques truites et repartir dans le monde des affaires le plus rapidement possible, mais tout en le guidant, il s'éloigne un peu et à la confluence de deux ruisseaux qu'il connaît bien, il tombe sur un ours qui a été crucifié. Et évidemment, la question qui va obséder Vincent et son entourage, Carla en particulier, la fille de Dan, ça va être de dire, mais qu'est-ce qui peut justifier que l'on crucifie un ours ? Mmh. Comment peut-on penser qu'il est utile de crucifier un ours ?
Oui, parce que on dit qu'il est seul, mais il y a du monde dans cette vallée. On a des chasseurs, on a des écologistes, on a des forestiers, on a des zadistes, des néo-ruraux. Mmh. Donc tout le monde se regarde. Et puis ensuite, dans le cours du récit, à partir de la mort de l'ours, qui est d'ailleurs le deuxième ours tué dans la vallée à très peu d'intervalle. Mais tout ce petit monde-là va projeter un certain nombre d'événements qui vont mettre en danger à la fois Vincent et puis d'autres personnes, en particulier Zadie. Ça va tendre un peu les choses. Évidemment, dans un policier, dans un polar, il faut un meurtre ou plusieurs.
Oui.
Il faut du sang un petit peu, enfin des choses un petit peu. Mais alors, dans votre roman, c'est pas très gore, c'est pas très sanguinolent. Déjà, vous le faites. Bon, voilà. C'est plutôt l'idée d'une enquête, de la tension, de lancer un petit peu des fausses pistes. Et peut-être c'est aussi ça le plaisir de l'écrivain.
Absolument.
Alors, je ne sais pas comment vous avez fait. Est-ce que vous aviez prévu sur un tableau les différents. Parce qu'il ne faut pas que le méchant ait l'air trop méchant, en tout cas au début, qu'on le prenne pour un faux gentil, je ne sais pas.
Alors, effectivement, quand je travaille au tableau, vous avez absolument raison. Donc, quand je commence un roman, j'ai une idée de roman, donc c'est même avant de le commencer, avant de poser le premier mot, j'imagine plusieurs événements, A, B, C, D, E, F, G, et puis ça finit jusqu'à Z, donc imaginons qu'il y ait 27 paragraphes, 26 paragraphes, comme l'alphabet. Et puis, je commence par écrire A, et puis je vais à B. Et B, en fonction de ce que j'ai écrit dans A, devient rapidement B', qui est suivi de C secondes, de D tierces, etc., etc. Et je dévie complètement. Mais souvent, je retombe sur mes pieds et je finis par Z. Mais les chemins que je prends ne sont jamais ce que j'avais prévu. Donc, voilà. Mais je pense que tout écrivain se reconnaîtrait là-dedans. C'est extrêmement difficile de suivre exactement son plan. Mais il faut quand même un plan au départ.
Et est-ce que quelquefois, on a des pannes ? Est-ce que des fois, ça ne fonctionne pas ? On se dit, voilà, ça tourne. Et puis, tout d'un coup, l'inspiration vient, soit à travers un nouveau personnage ou soit un événement qu'on peut...
Alors, j'ai pas de panne, mais parfois je m'éloigne de ce que j'avais prévu de faire. Et donc, je pars sur autre chose parce que ça me semble tout d'un coup plus lumineux que le plan que j'avais prévu au départ. Des pannes sèches, je ne m'en connais pas.
Ok, très bien. Écoutez, pour notre première pause musicale, moi j'ai suivi une piste évidente, puisque dans l'exergue de votre roman, il y a quelques lignes d'une chanson de Zazie que je vous propose d'écouter. C'est « Je suis un homme ».
Je suis le roi des cons.
D'auteur. Christophe Hyde.
Nous sommes de retour avec Jean-Pierre Nautet pour son livre H2Ours, sous-titré Une enquête du capitaine Marchand. Pardon. Comme je le disais, vous avez mis en exergue un extrait de la chanson de Zazie que nous venons d'écouter, mais pourquoi donc ?
Je vous remercie infiniment d'avoir passé cette chanson parce que mon livre n'est que modestement l'illustration des paroles de Zazie. Voilà, je suis le roi des cons.
Ah bon ? C'est vous qui le dites.
et donc, sans comment dire, divulgâcher le roman, on peut dire que dans cette affaire, H2Ours, l'ours a bon dos parce que tout ce qu'il y a derrière tout ça, c'est vraiment une appropriation par l'homme de la nature et une destruction de la nature. Et je pense que c'est ce que je voulais exactement dire. Bon, alors évidemment, je ne le dis pas aussi bien que Zazie. Mmh. Il me faut 300 pages pour le dire. Elle sait parfaitement le dire en quelques vers.
Oui, et puisque nous en sommes aux épigraphes, vous donnez aussi une phrase de Giono dans Jean le Bleu qui écrit « Puisque tout le bonheur de l'homme est dans les petites vallées ». Et donc, cette petite vallée, vous nous avez dit, c'est aussi, certes, c'est la vallée du roman, mais c'est une vallée que vous connaissez bien. Mm-hmm. C'est en haut, c'est le surplomb, hein, et puis au-delà, après, il y a le vaste monde que connaît Vincent Goldberg, puisqu'il est allé en Libye, puisqu'il repartira au cours de ses péripéties pour donner la main au capitaine Marchand jusqu'à Doha. Mais tant qu'il est dans cette vallée, il écrit « Entre nous, en bas signifie tout ce qui est en dessous de chez Dan ». Dan, c'est Dan le Danois, c'est son voisin, aussi taiseux. Mais donc, en dessous de Dan, qui est encore en montagne. En bas, cela reste un peu chez nous. Au-delà, quand la montagne laisse la place à la plaine, c'est l'étranger. Ça n'a même plus de nom. C'est plus qu'en bas. Là où les catastrophes s'enchaînent, à un rythme soutenu, leurs bruits étouffés nous parviennent à peine. » Donc, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, il y a un désir d'isolement de la part de Vincent, mais l'événement de l'ours va entraîner toute une cascade de choses qui vont conduire même les CRS auprès dans cette vallée. Oui. Parce qu'il va falloir se battre pour ou contre l'ours. Ça va devenir un enjeu politique.
Tout à fait. Alors, ce que je trouve intéressant dans le caractère de Dan, dans le personnage de Vincent, et de Dan aussi, ce sont des hommes qui sont là pour, comme dit Carla, on ne voit plus le monde, donc c'est comme s'il n'existait pas. Il y a une naïveté chez eux qui est vraiment quelque chose d'intéressant à décrire quand on est romancier. Et ce sont des gens qui ne veulent plus faire partie, ne veulent plus prendre parti dans les querelles des hommes. Et puis là, patatrac, ils sont rattrapés.
Ils sont sur un quant à soi, un peu à dire, ouais, les non-alignés.
Exactement, ce sont des non-alignés. Et là, ils se retrouvent confrontés à des partisans de l'ours, des anti-ours, et ils sont au milieu de cela. Et finalement, après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hésitations de Vincent, il va falloir qu'ils prennent parti. Alors, je sais que l'ours est un sujet extrêmement polémique, extrêmement difficile à traiter. Hein. Je n'allais pas penser que je prenne définitivement parti, moi, l'auteur. Je sais ce qu'il en coûte d'être éleveur, de se retrouver avec quelque chose qu'on a essayé de chasser pendant des millénaires et de réapprendre à vivre avec lui. Mon personnage, Vincent, il va prendre parti parce qu'il va se dire, finalement, ça vaut le coup de respecter la nature. Et donc, après bien des péripéties, d'abord parce qu'il est accusé et qu'il faut qu'il se disculpe, il va comprendre ce qui se passe, à quoi ça sert pour certaines personnes d'avoir crucifié un ours, et il va prendre parti pour l'ours. Mais en fait, Vincent, il va prendre parti pour la nature.
Oui.
L'ours n'est qu'une parabole dans cette affaire-là.
En ça, il va être aidé par Hélène, qui est une jeune femme très idéaliste, activiste. Alors, c'est une tête bien faite, elle dit qu'elle est PhD en Freshwater Sciences. En bon français, c'est qu'elle a dû, je pense, étudier l'hydrologie, vraisemblablement.
Oui, tout
en
à
tout
fait.
Cas, elle a un background très important d'entomologiste, etc. Et j'ai vraiment aimé cette phrase, parce que quand elle dit un petit peu son CV, alors qu'elle est dans une ZAD, une zone à défendre, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes, ou bien pour l'A69, où on peut penser que parmi ces activistes, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que, mais bon, on peut projeter des choses assez négatives. Et donc, tous ses voisins disent, mais pourquoi n'écris-tu pas des rapports à la Commission européenne, etc. Et elle a cette phrase qui m'a interpellé. Mais après avoir écrit votre 10e livre sur le réchauffement climatique, vous n'avez pas encore sauvé votre premier arbre. C'est-à-dire qu'elle est dans l'action, c'est une idéaliste, alors ça va la conduire à prendre des risques, à endosser un certain nombre de responsabilités, c'est tout l'enjeu. Mais je trouve qu'elle est vraiment avec une idée aussi, parce que tout au long du livre, il y a l'idée de la peur de l'extinction. Vous parlez du dodo de l'île Maurice, du tigre de Tasmanie, de la baleine bleue, de toutes ces espèces qui ont disparu, et c'est vrai que... Voilà, il y a ça qui est au cœur du roman.
C'est au cœur du roman, tout à fait. Je pense vraiment que l'ours est une parabole dans ce roman, ce dont il est question et ce dont ces gens se rendent compte. Alors, Hélène, elle a tous les étages allumés, donc ça fait très longtemps qu'elle a conscience de ça. Et elle va ouvrir les yeux, je pense, à notre ami Vincent et vraiment lui faire comprendre que si l'ours disparaît, si la baleine disparaît, si le tigre de Tasmanie disparaît, si n'importe quel le vison d'Amérique disparaît, on pourrait citer énormément d'animaux, eh bien, en fait, c'est l'homme qui disparaît.
Ah oui.
Voilà. Et donc, alors vous dites, elle est idéaliste. Moi, je dirais qu'elle a le sens pratique. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'écrire des rapports, ça ne sert pas à grand-chose. Et sans faire trop de politique, je pense que les rapports du GIEC, en ce moment en particulier, dans cette phase que nous traversons, ils ne servent pas à grand-chose.
Les courbes continuent à monter.
Les courbes continuent à monter allègrement.
C'est vrai. Alors, Hélène, elle est l'avocate du vivant. Elle nous parle de Lizard, Rupicabra pyreanica, qui a failli disparaître dans les années 60. On apprend plein de choses. Qui ne reste plus que 2000 tétras. Et elle dit au détour d'une phrase, et je ne vous parle pas du lagopède. Vous êtes naturaliste, vous êtes botaniste, parce que votre roman est traversé par plein d'évocations. On a envie de partir en montagne quand...
Mais j'espère bien que ça va donner envie de partir en montagne. Alors, je ne suis pas naturaliste. D'abord, quand on écrit un roman, on essaie de ne pas écrire... Moi, en tout cas, j'ai besoin d'asseoir mes récits sur des choses qui sont réelles. Donc, je fais des recherches, je me renseigne. Je dois vous dire qu'avant d'écrire le roman, je ne savais pas combien de grandes tétras qui restaient dans les Pyrénées. Il a fallu vraiment que je cherche, je pense que c'est en tout cas j'avais une idée déjà, même si je ne suis pas zoologiste. Ça fait 35 ans que j'habite la même vallée des Pyrénées, et donc à la fin des années 80, quand je me baladais dans ma vallée, il m'arrivait souvent de croiser des coqs de bruyère, donc le grand tétras, et je dois dire que ça fait trois ans que je n'en ai pas vu.
Ouais. Moi, j'ai appris plein de choses. Vous parlez aussi du pastoralisme. J'ai appris qu'il y avait des jeunes gens qui venaient d'autres régions. Et aussi, il y a ce passage où je ne savais pas, moi, il y a des cabanes préfabriquées qu'on héliporte.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une pratique.
On est loin des oris. Alors, les oris, c'est...
Oui, les oris, ce sont des petits refuges en pierre, hein,
c'est ça.
Qui servaient à s'abriter pendant les orages ou qui servaient aussi à passer une nuit en montagne. Je pense que beaucoup de pyrénéistes ont déjà dormi dans des oris. En tout cas, moi, je l'ai fait. C'est agréable. Uh-huh. C'est un peu mouillé, parfois. Ouais. Ça n'est pas totalement étanche. Mais... Le pastoralisme change, c'est-à-dire que les gens, petit à petit, les bergers des Pyrénées commencent à non pas à s'habituer, c'est difficile de s'habituer à quelque chose qui va à l'encontre de votre pratique, mais commencent à justement un peu changer leur pratique pour faire en sorte que l'ours soit respecté et les troupeaux protégés. Donc on remet des bergers dans les montagnes, on héliporte des petites cabanes qui sont à deux pentes, avec des toits en ardoise, c'est assez marrant, avec un panneau solaire d'un côté pour avoir un petit peu de lumière, etc. Et donc on héliporte ça dans les estives, avec des bergers tout à fait formés. Qui ne sont pas forcément anti-ours, qui disent...
Les troupeaux, ils sont de quelle quantité? Enfin, il y a combien de têtes?
Alors, vous pouvez avoir des grands troupeaux. Ouais. Il y a des regroupements d'éleveurs.
Oui, parce que j'ai même vu dans votre livre, on en perd un certain nombre. Enfin,
oui, tout à fait.
Ouais,
tout à fait,
c'est ça. Ouais. Et quand on fait le rapport entre les brebis attaquées par l'ours par rapport, entre guillemets, à ces brebis perdues...
Alors, c'est un sujet très sensible que vous abordez.
Excusez-moi de mettre les pieds dans le plat.
Non, mais il faut l'aborder.
Les
éleveurs ont la dent dure contre l'ours. Et alors, parfois, l'ours fait des ravages parce qu'il peut poursuivre une brebis, affoler le troupeau, et puis il peut y avoir ce qu'on appelle un dérochement. Et donc, on peut perdre une cinquantaine de brebis d'un coup parce qu'elles vont tomber dans un ravin. Voilà. Mais ceci étant dit, les groupements pastoraux qu'il y a aujourd'hui dans les vallées pyrénéennes, vous avez parfois des troupeaux qui dépassent facilement 1000 brebis.
Ah oui.
Voilà. Et sans parler de l'ours, il y a une mortalité là-dedans qui est évidente. Donc on peut perdre une trentaine de brebis dans un été, voire 50, voire 60. Mmh. Mais tout ça n'est pas attribuable à l'ours.
Alors j'ai aussi appris que dans ces pays, dans ces vallées, comme il y a la toponymie, il y a les patronymes. Et donc il y a les Bonours, les Crusates, les Jean IV. Et surtout, il y a l'idée du sobriquet et des clans.
Oui.
Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? D'ailleurs, pour aider le lecteur, il y a un arbre généalogique parce que, entre les différentes... Voilà.
Alors, dans les vallées couseranaises, ariégeoises, il y a de tout temps, les gens ne s'appellent pas par leur nom de l'état civil, mais par des sobriquets. Et donc, on peut porter le même sobriquet d'une génération à l'autre. Alors, ça disparaît un petit peu, c'est bien dommage parce que c'est tout à fait charmant. Vous pouvez demander tiens, est-ce que vous connaissez Jean-Paul Delannoy? Ça ne sert à rien, mais si vous demandez vous connaissez, vous savez où habite El Petit, là on va vous répondre.
Ah oui, voilà. La carte pour un ascendant qui devait être un joueur invétéré, dragoon quand on a un ancêtre dragon dans l'armée napoléonienne, ou encore Titou pour le Baptiste ou Baptistou.
Mais absolument, ouais. Je trouve ça tout à fait charmant.
Tout à fait. Écoutez, nous avons évoqué cette vallée. Je vous propose de retrouver un des chanteurs favoris de vos personnages dans ces Pyrénées. Il s'agit de Cat Stevens qui chante Wild World. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave,
nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
D'auteur. Christophe Hyde.
C'était Cat Stevens qui chantait Wild World. Nous sommes de retour avec Jean-Pierre Notet, venu passer cette heure avec nous pour parler de son dernier roman intitulé H2Ours, paru chez Empreinte Éditions. Nous avons parlé de cet ours. Et il y a un des thèmes, et puis des confrontations politiques autour de l'ours. Il y a un des thèmes qui, dans vos romans, puisque j'ai lu le tantième, est un peu récurrent, sans faire de complotisme aucunement, mais et qui est souvent un bon ressort de polar, c'est la méfiance face aux personnages, face à la politique, qu'elle soit faite par les dictateurs ou les édiles de proximité, avec une idée que le capitalisme avance souvent, en tout cas le capitalisme prédateur, avance souvent masqué, parce que votre vallée est l'objet de convoitises. Ça, on l'apprend à la suite. Enfin, d'ailleurs, je ne divulgage rien, car il y a deux parties dans le livre. Il y a la partie ours et la partie eau. Et donc, l'eau, c'est...
Voilà. Bon, sans encore dévoiler la totalité du roman, donc il s'appelle H2Ours, donc effectivement il y a deux parties.
Ouais, c'est bien trouvé.
Le titre est un jeu de mots. Et donc effectivement, ce que l'on comprend, c'est que cet ours qui a été crucifié, il a bon dos parce qu'en fait, il s'agit plus ou moins de faire le vide dans la vallée pour pouvoir en exploiter la richesse. Et la richesse, ça se trouve être l'eau. L'eau, ouais. Qui est l'enjeu de ce début de 21e siècle. Hein. Il y a d'autres enjeux, mais celui-ci en est un particulier et qui va l'être, à mon sens, de plus en plus.
Ah oui, et on parlait de... Parce que c'est un enjeu non seulement actuel et avec le réchauffement climatique, mais c'est un enjeu de tout temps dans la vallée, semble-t-il. On parle, sans faire des cours d'hydrologie, d'ailleurs vous connaissez sans doute bien le sous-sol parce que vous avez fait des fouilles, enfin... on a l'impression dans cette vallée, en tout cas la vallée de votre roman, il y a un côté où vraiment il y a beaucoup de sources, et puis de l'autre côté, l'eau
disparaît. Oui.
Pour des raisons
géologiques.
Et donc ça va créer aussi, enfin bon, c'est une autre clé un peu des antagonismes entre les différents personnages. Et donc c'est assez réussi.
Alors effectivement.
Est-ce que ça existe? Parce que j'imagine, oui.
Oui, ça existe, oui. Ouais. Alors ça existe, notamment ça n'existe pas dans ma vallée en particulier, mais ça existe dans d'autres.
Parce que l'homme, il a tendance à quand même de tout temps à essayer de se mettre le long des fleuves ou à l'endroit où il y a de l'eau.
Ouais.
Mais là, parfois, il y a des vallées moins dotées.
Exactement. Donc là, je fais une petite digression géologique. Hein. Donc, dans un versant de la montagne, on est sur du granit. Et puis, sur un autre versant, on est sur du calcaire. Donc, sur le versant calcaire et sur le plateau calcaire en haut de la montagne, l'eau s'infiltre. Et un versant de la vallée qui n'est pas bien doté, alors que l'autre est parfaitement doté. Mais ça cache un enjeu plus profond, c'est-à-dire que...
Oui, en ouvrant la focale, il y a les Pyrénées, mais il y a aussi, vous le dites très bien, là, il y a l'Espagne, et puis il y a beaucoup plus loin, il y a...
Voilà. Alors, au-delà des Pyrénées, effectivement, l'enjeu, c'est... il y a un trésor, il y a beaucoup d'eau, et il y a des pays qui manquent d'eau. Donc, Barcelone, qui n'est pas très loin, manque d'eau. Alors, c'est pas une blague. Barcelone manque d'eau. Simplement pour rappel, dans les années 2010, plusieurs containers sont partis de Marseille, donc ont pris de l'eau dans la vallée du Rhône pour l'amener à Barcelone, pour les besoins quotidiens de Barcelone. Et on a même pensé, il y a eu un projet qui n'a pas abouti, mais de détourner une partie du Rhône pour faire un canal qui aille jusqu'à Barcelone, alimenter cette grande ville. Bon, au-delà de ça, comme je connais bien les pays du Golfe, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec un pays dans lequel j'ai pas mal travaillé, qui s'appelle le Qatar, et qui, d'abord, a l'habitude de forer. C'est une seconde nature chez les Qataris, chez les jeunes Qataris, depuis les années 60.
C'est la source de cauchemar de votre narrateur. Vincent Goldberg, à un moment donné, il se laisse aller à divaguer et il écrit « Je me suis accroupi et je caresse Gigi en essayant d'imaginer les versants percés de routes sillonnées par une noria de gigantesques camions, les rives des lacs d'altitude hérissés de derriques, des flamèches crachant un feu incessant couronné d'un épais et nauséabond nuage noir, avec des petits bonshommes Playmobil surmontés de casques fièrement portés. Marqué d'un total de green energy. Non, bien sûr que non, nous sommes dans un parc naturel régional avec des règles situées dans un pays de loi, lui-même adhérent à l'Union européenne, chantre de la régulation. Tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Pas vrai, Gigi? Bon, dans le contexte actuel, de dire qu'il faut retirer les normes, il faut. Voilà, et avec Trump aux États-Unis, et avec Doha et des pétrodollars, voilà, bon, c'est de la fiction, hein, bien sûr, mais.
Oui, c'est de la fiction. Mais enfin, le Qatar a une nappe phréatique, hein, et cette nappe phréatique s'épuise. Hein. Donc, il faudra bien un jour qu'ils trouvent de l'eau quelque part. Alors, ils ont des processus de désalinisation. Je ne sais pas si vous êtes allé à Doha.
Jamais.
Quand vous allez de l'aéroport jusqu'à la ville, en fait, tout est vert. Mais les arbres que vous voyez, ce sont des arbres pétrole, c'est-à-dire qu'on a dessalé de l'eau de mer et on a fabriqué de l'eau douce à partir de pétrole. Voilà. Et donc, ça, ce genre de choses, je pense, a ses limites. Et donc, voilà, j'imagine qu'ils seraient intéressés par trouver de l'eau ailleurs, ce qui fait la trame de...
Oui, c'est l'occasion pour Vincent de remettre peut-être son costume et sa cravate et reprendre son ordinateur pour essayer de faire avancer l'enquête parce que
exactement.
Ça s'ouvre sur des perspectives. Alors, dans votre livre, on va bientôt arriver à la fin de l'émission, on observe les truites, on monte des sentes et des chemins escarpés. Il y a tout un vocabulaire. C'est pour ça tout à l'heure je disais, mais vous êtes naturaliste, parce qu'il y a le JSP, les rhododendrons, on parle de l'ivèche,
oui,
des décoctions de l'ivèche, de réglisse, de myrtille, de bruyère, et puis surtout Dan, le Danois, il nous fait des petits plats. Alors ça, c'est vraiment... C'est
Dan, quelques mots sur Dan le Danois. Donc ce personnage, il est intéressant. Donc il est un peu le parallèle de Vincent Goldberg. Lui, il a quitté Copenhague, où il avait un restaurant pour riches hommes d'affaires. Et il a aussi compris la vacuité...
Le restaurant étoilé.
Il a aussi compris la vacuité de son métier, qui consistait à nourrir tous ces gens, à les faire payer très cher. Et il avait aussi décidé de partir et de sembler ignorer le monde qu'il avait quitté. Mmh. Voilà. Et donc, il profite de tout ce qu'on peut trouver dans la nature, dans les Pyrénées. C'est pas tout à fait la même chose qu'à Copenhague. Mmh. Et donc, il y a toutes ces choses que vous avez citées. Je reviendrai juste sur un mot, réglisse. Ça paraît curieux,
ouais.
Mais par exemple, il y a une vallée ariégeoise où il y a un étang qui s'appelle l'étang de la réglisse. Et en fait, on aime bien aller y porter ses brebis, parce que les brebis mangent la réglisse sauvage, eh bien, le lait est meilleur parce qu'il a un petit goût de réglisse.
On a envie de goûter. À la fin de ce livre, comme souvent maintenant, il y a les remerciements. Et dans ces remerciements, vous remerciez votre vallée. Et il y a deux choses. Cette vallée, c'est aussi la rudesse et le bonheur. Il y a quand même la rudesse. Et vous évoquez d'autres auteurs ou d'autres livres qui vous ont inspiré, aidé à construire probablement les choses, en tout cas consolider vos connaissances. Il y a Violaine Béraud qui est déjà venue à ce micro, et Clara Arnaud, je crois,
oui.
Pour un livre qui s'appelle « Vous passerez comme des vents fous ». Il paraît que c'est un livre formidable, on me l'a conseillé.
C'est un super bouquin.
Tout récemment, on m'a dit « Il faut que tu lises ça ». J'espère, et peut-être que j'inviterai son autrice, ce serait vraiment... Et je voudrais savoir comment il a été reçu, ce livre. Est-ce qu'il a été lu dans votre vallée? D'abord, est-ce qu'il a été, par vos lecteurs, quelle a été sa réception, et quel retour on vous fait? Et puis en général, et puis dans votre vallée?
Alors, dans ma vallée, écoutez, très localement, je sais que les gens se le procurent.
Mm-hmm.
Dans mon petit cercle, alors c'est très difficile de savoir quel est le retour, hein, dans mon petit cercle d'amis, de connaissances, etc., il a été bien reçu, voire très bien reçu. Dans la vallée exactement, dans ma vallée, il y a des anti-ours et des pro-ours.
Mmh.
je ne sais pas trop comment il pourra être reçu. En tout cas, il circule beaucoup, mais je n'ai pas d'écho particulier.
D'accord. Mais écoutez, en tout cas, si des lecteurs ou des lectrices souhaitaient vous rencontrer pour parler de ce livre après l'écoute de cette émission, je sais que vous devez vous rendre à différents salons.
Oui.
Alors je ne sais pas, je vous laisse annoncer. En mai, je pense.
Oui, en mai, je serai à Saint-Lary-Soulan. Je crois que c'est le 9 et le 10 mai. Et puis je serai au Salon du Livre Pyrénéen, ça s'impose, à Bagnères-de-Bigorre, au mois d'octobre, le 9 et le 10 octobre. Le 9 et le 10 octobre, oui, c'est ça.
Très bien.
Non, ouais. Le 4 et le 5 octobre, pardon.
Ah bon, non, mais je laisserai les auditeurs vérifier sur le site, et éventuellement on pourra même le mettre sur la page.
Si je peux rajouter un mot, dans les remerciements, j'ai vraiment un remerciement particulier sur un bouquin qui est absolument fantastique, qui est le bouquin de Jessica Serra, qui s'appelle Sapiens Animalis.
D'accord.
Voilà, où elle nous explique, et je me suis vraiment beaucoup inspiré de ça, que nous avons perdu notre animalité et que c'est bien dommage.
D'accord, très bien. Merci pour ce conseil. On est toujours friands à Parole d'auteur de nouveautés. L'émission touche à sa fin et je voudrais vous remercier, Jean-Pierre Notet, d'être venu parler de votre dernier roman, H de Ours, paru chez Empreinte Édition. C'est un roman policier, politique et écologique, on l'aura compris, où transparaît l'amour d'une vallée pyrénéenne, un roman entre le local et le global, l'ici et l'ailleurs, la tradition et la modernité, un roman où l'on frissonne de peur et pas seulement à l'idée de croiser l'ours, un roman où l'on se désaltère de l'eau pure des sources qui deviennent des mobiles de bien des convoitises. En fait, pour tout dire, c'est un roman réussi.
Mais je vous remercie.
Voilà. Je voudrais remercier Francky qui a rendu cette émission possible. Et vous pouvez la réécouter et la faire écouter sur toutes les bonnes plateformes de streaming et sur le site de Radio Présence. À bientôt.